La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
C'est la capitale de l'Europe, elle a donné son nom à un phénomène urbanistique peu enviable. Son nom, top chrono, je désigne les bouleversements urbanistiques d'une ville livrée aux promoteurs au détriment du cadre de vie de ses habitants sous couvert d'une modernisation nécessaire. Je suis la bruxellisation, bien sûr. Jean-Marc Panis, c'est donc de Bruxelles que vous allez nous parler aujourd'hui.
Et vous faites ça très bien.
Je l'ai bien fait.
Ah oui, vraiment, j'ai une carrière peut-être. Je m'y croyais, j'ai failli répondre, mais je ne pouvais pas. Parce que, voilà, soit. Oui, Laurent, on va faire ça et nous allons le faire avec les deux quêtes de la ville chère à Jacques Brel. Même si Benoît Peters est français, on lui pardonne. C'est à Bruxelles qu'il a grandi avec son ami d'enfance, François Skuyten. Il signe à quatre mains un livre qui est aussi entre guide touristique, livre d'histoire et surtout déclaration d'amour à cette ville, Bruxelles. Donc, une ville pas simple à apprécier, mais que beaucoup d'auteurs historiques ont découvert et aimé, à commencer par un certain Gérard de Nerval, dont voici quelques mots.
Le bâtiment de l'hôtel de ville élève son mât gigantesque. Ensuite, vient un amas confus de toits en escalier, de clochers, de tours, de dômes. À l'horizon, brillent les bassins du canal, chargés d'une forêt de mâts.
Bruxelles nous avait toujours accompagnés dès l'enfance, dès le moment de notre rencontre dans un collège à Bruxelles où on réalisait ensemble assez rapidement un petit journal, mais où on faisait aussi sous la direction du père de François, qui était architecte et peintre. On travaillait le dimanche dans son atelier. Dans cet atelier, il y avait de grandes visions de Bruxelles, les grands travaux de Bruxelles, traités de manière assez majestueuse. Et il y avait aussi régulièrement des maquettes. Et bon, toi, tu étais familier de tout ça. Mais moi, je me souviens que ça me fascinait. Ça me fascinait parce que la maison était moderne et parce que ses rêves semblaient grandioses. Et donc, je crois que dans notre regard d'enfant, de la génération d'après l'Expo 58... On s'est rencontrés en 68, et donc c'était entre 68 et 1970 qu'on était vraiment ensemble. Donc, on peut dire un moment où Bruxelles bougeait beaucoup, où des grands projets se dessinaient, et on les voyait plutôt avec un œil positif. Et puis, quand on a renoué, j'ai fait mes études à Paris, quand on a renoué une petite dizaine d'années après, notre regard avait changé, peut-être par le frère de François, Luc, qui avait une sensibilité écologiste marquée, qui a construit une des premières maisons solaires. Ma compagne, Marie-Françoise Plissard, photographiait les destructions de Bruxelles, dans le quartier nord, les manifestations dans les Marolles. On s'inquiétait, nous qui étions des admirateurs de l'art nouveau, de tous les bâtiments disparus. Et donc, voilà, il y avait ces deux pôles. C'était l'enfance où on avait un peu ce rêve de l'an 2000 qui peut se prêter à toutes les villes, mais que Bruxelles voulait incarner. Et puis cet amour quand même de choses qu'on sentait très menacées.
Il y a encore les restes de ces grands délires de modernité qu'on veut. On veut égaler les villes nord-américaines, on veut le sentiment qu'on noue vers le futur. Et en même temps, il y a toute une série de gens qui, effectivement, se battent, se révoltent et qui, pied à pied, vraiment défendent leur quartier. On voit des gens qui résistent à l'agrandissement du projet européen. Enfin, la cicatrice de la jonction Nord-Midi est loin d'être fermée. Elle l'est toujours, pour moi, encore très visible. Et donc, c'est vraiment un moment de basculement. Et c'est pas un hasard si on commence après que tout ça va nous donner envie de faire les cités obscures, en fait.
À gauche s'étendent les allées du boulevard de Waterloo, les bâtiments du chemin de fer, le jardin botanique avec sa serre qui semble un jardin de féerie et dont les vitres se teignent des ardentes lueurs du soir. Voilà Bruxelles dans son beau, dans sa parure féodale portant comme des bijoux d'ancêtres ses toits sculptés, ses clochetons et ses tourelles.
J'étais heureux de parsemer ce livre aussi de belles citations de gens qui ont aimé Bruxelles. Parce que finalement, ceux qui l'ont visité au cours du 19e et début du 20e siècle, de Gérard de Nerval à Auguste Rodin, ont aimé la ville.
C'est une ville dont on n'imagine pas à quel point elle a été inspirante. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je sais ce que je lui dois, moi, en tant que dessinateur. Mmh. À quel point ça m'a donné envie de dessiner, en fait. Et je pense que ça a donné envie d'écrire à beaucoup d'écrivains. C'est une ville troublante, c'est une ville au cœur de l'Europe et qui incarne profondément cette Europe. C'est peut-être vraiment pas un hasard si la Commission européenne s'est inscrite ici, parce que son identité est troublante. C'est au cœur de tous ces mouvements, ces cultures. Il y a plusieurs villes, il y a tellement de cultures qui sont là, qui sont présentes et qu'on ressent. Par certains côtés, c'est assez normal qu'on ait ce monstre au cœur de la ville.
Il faut commencer à une époque où la Belgique n'existait pas encore, mais où Bruxelles, en tout cas cette ville qui était peut-être, quand on compare à d'autres grandes villes, une ville un petit peu de province, hein, mais déjà elle cristallise, ou en tout cas elle va être le théâtre de la concrétisation de tensions entre la Grande-Bretagne d'un côté, les Pays-Bas de l'autre et la France. Avec le 7 août 1695, une armée qui se met en marche pour faire division. Donc on est déjà dans quelque chose de, je dirais pas de romanesque, mais c'est de la grande histoire.
Oui, c'est hallucinant parce qu'en fait, pour faire diversion par rapport au siège de Namur, le maréchal de Villeroy, donc sous les ordres de Louis XIV, décide de bombarder. Mais alors il ne bombarde pas Bruxelles en faisant les choses à moitié. C'est vraiment une entreprise de pilonnage avec toutes les armes dont on dispose à l'époque, en visant l'hôtel de ville. La flèche est épargnée d'ailleurs, elle est la cible principale, mais c'est tout autour qu'on détruit, et vraiment le cœur de Bruxelles, et ce qui est aujourd'hui la Grande Place, est détruit. Ce bombardement n'a aucun sens sur le plan militaire, hein, les troupes s'en vont, et il est d'une cruauté énorme. Il y a eu évidemment des pertes humaines, même si les habitants ont quand même réussi à quitter la ville pour la plupart.
Hein. Il existe d'ailleurs des gravures de ce bombardement qui montrent l'état de la ville après cette catastrophe. C'est hallucinant, hein. c'est terrifiant. Les conséquences de ce bombardement, mais c'est invraisemblable, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ils vont devoir vraiment reconstruire dans tous les sens, partout. Hein. Enfin, c'est inouï, et de nouveau un des paradoxes de l'histoire de cette ville. Parce que si elle n'est pas démolie, elle va quand même un petit peu se démolir elle-même.
Quand les autres ne s'en chargent pas.
Voilà, donc elle a pris l'habitude. On a l'impression qu'elle s'est dit, allez, on peut faire plus fort.
C'est pour ça que Villeroy, c'est le coup d'envoi. C'est pour ça que j'ai voulu démarrer le livre là-dessus. Cette idée que cette ville qui va tellement souffrir de ravages, on peut dire internes, ça a quand même démarré par quelque chose d'extérieur, une agression extérieure. Pour le reste, au cours des deux guerres mondiales, la ville ne sera pas tant détruite que ça, contrairement à Leuven, par exemple, qui est énormément démolie. Et donc là, Bruxelles y mettra du sien et ne fera pas les choses à moitié.
Mud Men, c'est un morceau des Pink Floyd dont le vinyle devait sans doute tourner en boucle sur la platine des jeunes et fougueux Benoît Peters et François Skuyten à l'aube des années 70. Alors on vient de l'entendre, Jean-Marc, ils évoquent, nos deux auteurs, La capitale belge dans Bruxelles, Rêve capitale, un livre sans concession sur l'histoire de la capitale, précisément.
Sans concession, Laurent, parce que Bruxelles a beaucoup souffert, on le sait, hein, dans son architecture, mais avec beaucoup d'amour aussi, ça il faut le souligner. Car malgré tout, elle garde un charme unique qui est le fruit de cette histoire particulière et qui touche aussi beaucoup ses auteurs. Alors, on évoquait avec nos invités le bombardement de la Grande Place au XVIIe siècle et une grande place détruite. Je vous propose d'ouvrir avec eux un nouveau chapitre qui commence par un air d'opéra devenu très célèbre et surtout associé à jamais à la naissance de la Belgique.
Il va y avoir là une reconstruction qui est une reconstruction qui va se faire assez rapidement et dans un esprit très très dynamique, en voulant à la fois retrouver le style flamand et en le modernisant, en l'adaptant au goût du jour. Donc déjà, plusieurs styles en un dans cette impression d'harmonie. Et puis évidemment, le deuxième grand changement survient à partir de 1830, quand cette ville moyenne, cette ville provinciale, devient capitale d'un pays et veut être à la hauteur de l'idée de capitale. Et donc là, il va y avoir le complexe bruxellois qui explique énormément des grands projets du 19e siècle, le voûtement de la Seine, la construction du palais de justice, la jonction Normidie. Presque tout cela est lié, au fond, à l'idée de faire de Bruxelles un équivalent des grandes villes qui l'entourent, de Londres et de Paris, qui sont les deux modèles principaux. Or, ce sont deux modèles totalement hors d'échelle, totalement inappropriés. Ce sont deux grandes villes qui n'ont aucun rapport avec Bruxelles. Et en singeant, par exemple, les boulevards haussmanniens dans le centre, on ne parviendra jamais à y installer la bourgeoisie. C'est un moment où quand même la Belgique est écartelée entre le pouvoir des Pays-Bas, le pouvoir français qui a eu juste avant les visées de la Grande-Bretagne, etc. Donc cette envie de faire exister le pays et ce pays, cette ville qui naissent d'un air d'opéra, on pourrait imaginer que c'est plutôt une situation italienne, donc c'est assez beau. Le soulèvement de ce peuple, il faut dire que l'année 1830 est une année de soulèvement aussi en France, une envie de changer, la difficulté à trouver un roi, parce que la Belgique est un cadeau dont on ne veut pas tout à fait, donc Léopold Ier se fait un peu prier et voudra déjà faire quelque chose de Bruxelles, pour s'y sentir bien, même s'il n'y est pas en permanence. Évidemment, c'est surtout, on le sait, Léopold II qui, lui, aura vraiment une visée, sera roi bâtisseur. Il va y avoir cette idée qu'il faut quand même que ce pays en vaille la peine. Et puisque la Belgique de l'époque, la Belgique du milieu du 19e, est extrêmement puissante, avant même la conquête du Congo, c'est une puissance extraordinaire, il faut qu'elle se reflète à Bruxelles absolument. On ne le fait pas tant que ça par des monuments, sauf le palais de justice, qu'on veut le plus grand du monde. Mais sinon, c'est l'idée de donner de l'allure à cette ville, donc d'élargir les avenues, de percer, de tracer. Et on le sent très bien dans le projet du bourgmestre Anspach, qui est un de ces bourgmestres qui a eu une action très forte. Le projet du bourgmestre Anspach, c'est pas seulement le voûtement de la Seine, qui est un projet d'assainissement, discutable, compliqué, mais il y avait de vrais problèmes avec la Seine. Le projet, c'est de profiter du voûtement pour percer les boulevards.
Et faire dans l'haussmannien.
Et faire dans l'haussmannien. Paris est une fois de plus le modèle. Léopold II regarde beaucoup du côté de ce que Haussmann est en train de faire. Et c'est vraiment le modèle qui inspire Bruxelles. Et c'est dommage parce qu'en fait, on ne voit pas les particularités, on ne comprend pas et on lui inflige très vite une chose assez violente, en couvrir la Seine.
La seule rivière naturelle que Bruxelles possédait.
C'est une violence dont les conséquences nous troublent encore, parce qu'on ne comprend pas bien, on sent qu'il y a eu au cœur de cette ville l'eau, et que cette eau est enfouie et est devenue un égout. C'est terrible.
Le 26 septembre 1864, l'homme qui finalement, malgré lui, va donner le nom à une barrière, ce que je trouve assez beau, c'est très poétique à nouveau, effectue sa quatrième tentative de vol en ballon et elle est réussie. Elle est magnifique cette histoire et elle se passe à Bruxelles à nouveau.
Oui, c'est une histoire incroyable. Donc c'est évidemment Félix Tournachon Nadar, ce grand photographe, mais aussi passionné par le ballon et qui en même temps fait des recherches sur le plus lourd et le plus léger. Il travaille les deux, mais le plus lourd que l'air avec l'hélice. Il a d'ailleurs des supporters. Il a Jules Verne qui suit ses travaux et bien d'autres. Donc ce grand photographe veut faire un envol de son ballon, le géant. Le géant est un des plus grands ballons jamais imaginés. Il veut faire ça juste devant le botanique. Et ça va être un moment historique, mais la ville est très très inquiète, évidemment, parce qu'il va y avoir énormément de monde. On a annoncé ça dans tous les journaux. C'est un aventurier et il a l'art de la communication. Il sait mettre en avant ses aventures. Il écrit beaucoup. C'est un caricaturiste aussi, c'est un personnage unique. Et donc quand quand le lieu est annoncé, ben la ville de Bruxelles décide de construire des barrières, et ces barrières Nadar, pour garder leur nom. Et ça, c'est une histoire qui ne rendra pas très heureux, je crois.
Mais oui, tout à la fin de sa vie, découvrant que le nom barrière Nadar est toujours d'application, 50 ans après, hein, parce que Nadar a une très 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 longue vie, ou 45 ans après, il dit qu'il est douloureux pour un homme qui toute sa vie s'est battu pour la liberté de finir sa vie en donnant son nom à une barrière. En même temps, il y a un très joli moment autour de cet envol, puisque le roi Léopold Ier, qui mourra peu après, donc le vieux roi Léopold Ier, vient assister à cet envol, demande à rencontrer Nadar, au mieux des préparatifs, donc on présente Nadar, et Léopold Ier lui dit « On me dit, monsieur Nadar, que vous êtes républicain. » Et Nadar répond superbement « Oui, sire, et vous ?» Et Léopold Ier aurait répondu, selon le témoin de l'époque, « Au moins, ma profession me l'interdit. » Quel signe que nos rois pouvaient avoir de la répartie, de l'humour. Et en même temps, ce dialogue cordial entre le républicain plutôt anarchiste et le vieux roi. Donc voilà un épisode charmant.
On sait rire chez nous, monsieur. On sait rire.
On sait rire.
Voilà, et après la muette de Portici, hein, Daniel François Esprit Aubert, cet opéra duquel est sortie, dit-on, la Belgique, Jean-Marc, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ici, c'est une polka, mais pas n'importe laquelle, celle de Jacques Offenbach dans son Voyage dans la Lune, une musique qui va à merveille aux exploits de ce fan, donc de Jules Verne, qui était Félix Tournachon, alias Nadar, dans son ballon au-dessus de Bruxelles. Alors, un Bruxelles et son histoire que nous évoquons avec vous, mon cher Panis.
Mais oui, mon cher De Hossé. Et avec nos invités, surtout auteurs de Bruxelles, un rêve capital, donc ce livre, il s'agit de Benoît Peters et Françoise Cuyten. Et quand on parle de Bruxelles et de ses complications architecturales, c'est un euphémisme, hein, on peut le dire, on ne peut éviter de mentionner le colossal palais de justice qui a beaucoup obsédé le duo d'auteurs. On démarre avec un extrait, dossier B, un documentaire fascinant sorti il y a une vingtaine d'années, je pense, de Wilbur Legube, qui place bien l'enjeu du mastodontesque bâtiment.
Ce palais de justice et son architecte Joseph Poulart ont en effet de quoi intriguer.
On ne va pas construire un palais de justice, on ne va pas construire le plus grand palais de justice de Belgique. Non, du monde. Allons-y, le plus grand chantier d'Europe du temps avec l'architecte le plus mégalomane. Mais là, ça donnera quelque chose. Oui, il y a de la destruction avec le palais, on le sait bien, et les Marolles en ont beaucoup, beaucoup souffert. Mais au moins, il y a un vrai projet dont il reste quelque chose qui doit être redécouvert et qui doit être à nouveau aimé, parce que c'est un des bâtiments clés de Bruxelles et c'est étonnant que, par exemple, même dans l'offre touristique qu'on propose, on ne parle jamais du palais.
Oui, et même au moment de l'inauguration, il a coûté beaucoup plus que prévu.
5 fois plus cher que prévu.
Oui, presque 20 ans de travaux. Mais on en est presque fiers, parce qu'on se souviendra au moins de ce qu'il a représenté et de l'ambition qu'il y avait à sa création.
Le palais, qu'on voulait le plus grand du monde, a d'abord fait l'objet d'un concours. Poulart était membre du jury, mais après avoir écarté tous les candidats, il a sorti de ses cartons un projet auquel il travaillait depuis 10 ans. Et qui a émerveillé ses confrères.
Donc, de juré, il devient lauréat. À ce moment-là, il développe les plans, mais il refusera toujours de donner l'ensemble des plans, malgré le gigantisme de la construction. Ce qui fait qu'on est obligé de lui faire confiance, et il se considère comme un artiste. Donc, il dialogue avec les ministres, refuse de parler avec d'autres représentants de l'autorité, et quand on exige de lui des éléments plus précis, il menace d'abandonner le chantier. Oui. Or, personne ne maîtrisant le projet, on ne peut pas se passer de Poulart.
Et il a un contrat unique que j'ai jamais entendu nulle part ailleurs, c'est qu'il a le droit de modifier tout ce qui n'est pas construit. Ce qui fait qu'il change ses plans régulièrement.
Donc c'est une œuvre en chantier permanente.
Permanente. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a plusieurs projets pour couronner le palais.
Dont une pyramide, oui.
Ah oui, on parle même d'une pyramide, en tout cas pas du tout ce qu'il va en fait être construit, mais après sa mort. Et donc, c'est un cas rare, ça. L'entrepreneur s'arrache les cheveux, il n'arrive jamais à donner un prix pour terminer cet édifice. Et l'histoire est vraiment incroyable, mais 20 ans d'un chantier où on voit s'ériger comme ça ce monstre de pierre magnifique. Par contre, il ne faut pas oublier que c'était quand même un grand architecte.
Mais Poulard est à la fois mégalomane et fragile. Et il va véritablement s'user à la tâche pendant ce chantier trop grand et sans doute traité de manière trop personnelle, sans faire suffisamment confiance à ses assistants et aux équipes. Et donc, à un moment, on voit très bien dans certains documents qu'il est tombé dans une dépression profonde et qu'il était au bord d'être interné. Mais pas interné parce qu'il aurait été fou dès le départ, mais peut-être interné parce que ce projet était immaîtrisable.
Poulard n'a jamais vu le palais terminé. Il est mort en 1879, 4 ans avant l'achèvement des travaux. On dit qu'il était devenu fou.
Il meurt assez longtemps avant l'achèvement du palais, laissant les autorités désarmées, d'où un certain nombre de bizarreries dans les plans, qui peut-être n'auraient pas eu lieu s'il avait pu maîtriser la chose jusqu'au bout.
Dans le quartier des Marolles, le mot « architecte » est devenu une insulte.
Comment ces hommes ont-ils réussi à imposer au pays un projet de monument monstrueux et défectueux au point de vue du service, avec l'idée préconçue de faire de ce monument un objet de parade?
Ça va au niveau des réactions de monument monstrueux et défectueux à un Sigmund Freud qui dit que c'est un palais assyrien. C'est vraiment la preuve que pour une fois, Bruxelles a accouché de façon volontaire de quelque chose de vraiment hors norme.
Oui, le jeune Freud, dans une lettre à sa fiancée, fait l'éloge de ces choses. Il croit d'abord que c'est le palais royal. Et puis évidemment, il découvre non, que c'est le palais de justice, mais il le décrit comme l'amateur d'antiquité qu'il est. Et beaucoup, beaucoup de gens seront admiratifs. Évidemment, le peuple des Marolles, lui, va plutôt le décrier parce qu'il en a souffert, parce que cette masse extrêmement imposante sur l'endroit qu'on appelait autrefois le Mont des Pendus, ça donne quand même au peuple le sentiment d'être écrasé par le pouvoir, écrasé par la justice. Il y a dans cette théâtralité quelque chose qui fascinera Hitler et qui fascinera son architecte Albert Speer. Donc, il y a une ambivalence aussi là-dedans. Quand on pense au Grand Berlin voulu par Albert Speer pour Hitler, cette inspiration monumentale fait peur. Il y a là quelque chose qui est plus grand que l'homme et qui doit lui donner le sentiment qu'il est minuscule comme un personnage de Kafka devant la loi. Et d'Orson Welles qui avait songé, avant de trouver la gare d'Orsay à Paris, qui avait songé à y tourner justement Le Procès, l'adaptation du roman.
Voilà donc quelques hot notes de ce hit single que l'on a longtemps attribué à tort donc à Tommaso Albinoni, Jean-Marc, un l'adagio éponyme donc été composé en 1958 par le musicologue Remo Giazzotto, célébrissime hymne à la tristesse qui a été utilisé entre autres par Orson Welles dans son film Le Procès, un film d'ailleurs qu'il a failli tourner au Palais de Justice à Bruxelles. Eh bien, vous nous faites bien voyager, Jean-Marc Panis.
Écoutez, merci. Et c'est pas fini. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que demain, promis, on continue donc avec Françoise Keuten et Benoît Peters, auteur de ce passionnant livre Bruxelles, un rêve capital. Cette aventure, si vous le voulez bien, c'est sorti chez Casterman.